بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعلى لونج تاع الله سبحانه وتعالى سندخل دوزيام السيز إن شاء الله autour de ce sujet, les clés du bonheur ou les causes du bonheur. Et comme nous avons vu tout à l'heure, le croyant est entre les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'un bienfait à un autre, et les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala causent au croyant la reconnaissance à Allah subhanahu wa ta'ala et sa louange. Et puis le croyant utilise les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Et sa reconnaissance cause le fait de préserver le bienfait et le fait de l'augmenter. Et en même temps, le croyant, s'il lui arrive de commettre des erreurs, donc il se repent à Allah subhanahu wa ta'ala et c'est bien pour lui. Et aussi, il subit des catastrophes et des malheurs et il endure, il patiente et c'est un bienfait pour lui aussi. Et nous avons vu que la reconnaissance a des piliers, a trois piliers. Le premier étant le fait de reconnaître avec son cœur le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le deuxième, c'est le fait de louer Allah subhanahu wa ta'ala pour ce bienfait et d'en être reconnaissant à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le troisième, c'est d'utiliser ce bienfait dans l'obéissance à Allah azza wa jal. Qala azza wa jal, i'malu ala daoud shukra. Et la traduction approximative du sens du verset, œuvrez aux familles de Daoud par gratitude, par reconnaissance à Allah Azza wa Jal. Donc ça, c'est la situation du croyant qui a le bonheur par le biais de sa foi. Quand il fait un péché, il se repent, et quand il est comblé d'un bienfait, il est reconnaissant, et avec sa reconnaissance, il ne cesse d'être comblé par les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. La troisième situation du croyant, c'est que quand il subit une catastrophe ou un malheur, il doit endurer, il doit patienter. قال عز وجل ما أصاب من مصيبة فبإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. Quand une catastrophe arrive, comme il est dit dans le verset, ça c'est par l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala oriente son cœur vers le bien. Iqlima a dit concernant ce verset, c'est le croyant qui subit une catastrophe, il sait qu'il vient d'Allah. Et il l'accepte, il se soumet à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que le croyant face à la catastrophe trouve le plaisir de la patience et de l'endurance. C'est-à-dire, sa patience va lui procurer un certain bonheur et un certain apaisement parce qu'il sait, de par sa foi, que tout ce qui lui est arrivé, c'est min Allah Azza wa Jal. Regarde maintenant la panique dans laquelle se trouvent les non-croyants face à cette catastrophe qui atteint le monde entier. Et regarde l'apaisement des croyants face à cette catastrophe. Ils utilisent les moyens, et surtout les moyens religieux qu'ils utilisent, les du'as, pour pouvoir demander à Allah subhanahu wa ta'ala de les épargner de cette catastrophe et de ce malheur, de cette grande maladie, qui a rendu le monde insomniaque. Et ils utilisent le du'a, Allahumma inna na'udhu bika min jahdi al-bala wa darak al-shaqa. Ils remettent tout à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est le seul qui peut délivrer de cette détresse et de cette catastrophe. Et donc le croyant sait que rien, il ne peut pas échapper du destin que Allah subhanahu wa ta'ala lui a privé. C'est pour ça que la patience prodigue un bienfait pour le croyant. Et il gagne avec ça la récompense des patients dans l'immensité et dans la La grandeur n'est connue que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala récompense les patients d'une façon sans limite, subhanahu wa ta'ala. Il leur a prévu des récompenses très fortes et très grandes. Et donc, voyons que cette situation, le bonheur, en réalité, c'est le fait d'être soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, de la parole de notre messager alayhi salatu wassalam, étonnante la situation des croyants. Et ceci n'est dû qu'aux croyants. Quand il est comblé d'un bienfait, il est reconnaissant. Quand il subit un malheur, il patiente, il endure. Et quand quand il est comblé d'un bienfait, il est reconnaissant. Et c'est un bienfait pour lui. Quand il subit un malheur, il patiente, et c'est un bienfait pour lui. En dehors du hadith, comme on dit les hommes de science, les clés de bonheur sont trois. Le repentir, quand on commet des péchés parce qu'on n'est pas infaillible, et la patience, et la reconnaissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous devons méditer les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala avec lesquels il nous a comblés. Comment la foi du croyant, comment il est l'origine de l'apaisement et du bonheur et de la quiétude. Et avec tout cela, on sait que la foi, c'est le refuge des croyants. Celui qui a la foi authentique, c'est son refuge dans toutes les situations. Au moment de l'obéissance, il se refugie dans sa foi. C'est elle qui le pousse à obéir à Allah, Azza wa Jal. Au moment de la désobéissance, c'est sa foi qui va le stopper. Et qui va lui interdire de transgresser les droits d'Allah parce qu'il sait que c'est pas bon, qu'il en découle un péché. Donc, il revient toujours vers sa foi, c'est la source de son bonheur. Au moment des catastrophes, il se retourne vers sa foi. C'est elle qui lui donne ce soutien moral, ce soutien intérieur, qui l'amène à l'apaisement, et qui l'amène aussi au fait d'accomplir les actes adéquats à chaque situation. La foi, akhal islam, illumine le chemin du croyant. La foi oriente le croyant vers la droiture. Et il avance dans cette vie en étant dans une clairvoyance. Il ne patauge pas. Il n'a pas d'hésitation. Il n'a pas de doute. قال عز وجل وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. Dans la traduction approximative du sens du verset, il est dit, et c'est ainsi nous t'avons révélé une âme. L'âme ici, c'est la révélation. Il l'a appelée l'âme, pourquoi? Parce que l'âme, c'est la vie du corps. Et la révélation, il est appelé ainsi l'âme, parce que c'est la vie du cœur. Les cœurs ne peuvent pas vivre sans la révélation, et sans la mise en application de cette révélation. Donc, c'est ainsi, nous t'avons révélé une âme de notre ordre. Tu n'avais aucune connaissance du livre, ni de la foi. Mais nous en avons fait une lumière, par laquelle nous guidons qui nous voulons parmi le serviteur. Donc l'orientation, la guider vers la foi et vers la soumission, il vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il faut la demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il faut demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous préserve sur cette foi, qu'il nous raffermisse sur cette foi. Et qu'on ne dévie pas de cette voie de la foi. Le croyant passe dans cette vie par la lumière de la foi. Et tout ce qu'il rencontre dans ce bas monde, il le traite selon les obligations de la foi. Et il y a un bienfait, le fait de lire et de relire le livre de Cheikh Nasser Din Sa'di, rahmatullah alayhi, qui s'appelle Ad-Din al-Sahih, yuhillu jami' al-Mashakil. Il y a un grand bienfait à lire ces livres et à le relire et à le comprendre. Celui de l'érudit Cheikh Saadi rahmatullah qui s'appelle La vraie religion est la solution de tous les problèmes. Et tu n'as qu'à méditer cette parole d'un orientaliste occidental qui a dit si Mohammed était vivant, il réglerait le problème de l'humanité autour d'une tasse de café. Hein? Hada, c'est un ennemi d'Allah qui a dit ça. Et nous, nous devons avoir cette certitude, notre foi. On sait que le bonheur de l'humanité entière, il est dans la soumission à Allah Azza wa Jal. Et qu'on ne peut pas obtenir un bonheur en dehors de la soumission à Allah Azza wa Jal. En dehors du fait d'accomplir la foi, d'accomplir les bonnes œuvres, d'avoir cette croyance authentique et d'accomplir les œuvres que ça implique. Donc, le croyant se réfugie en sa foi dans toutes les situations, n'importe laquelle. Le moment du malheur, le moment de la joie, le moment des catastrophes, hein, à tous les niveaux. Et il trouve dans sa foi le guide qui l'oriente vers les biens et vers toutes les vertus. Quand le croyant est comblé d'un bienfait, il n'est pas un but de lui-même. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne se met pas et il ne se gonfle pas, il ne se vante pas. Il n'oublie pas ses défauts. Ses défauts, ses erreurs sont en contradiction avec la foi obligatoire. Et donc le croyant n'est pas imbu de ce qu'il fait, du bien qu'il fait. Et en même temps, il n'oublie pas ses défauts. Car sa foi l'oriente vers le fait d'être humble, d'être modeste devant Allah subhanahu wa ta'ala, de reconnaître son incapacité, sa faiblesse, de reconnaître que tous les bienfaits viennent d'Allah Azza wa Jal. Hein? Et que quand il est comblé d'un bienfait, il doit l'utiliser dans les voies qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Et donc avec, en agissant ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala lui ouvre les portes de la réussite. Et les portes par lesquelles il va arriver à la satisfaction d'Allah. La même chose face à la désobéissance et face à la catastrophe. Sa foi l'oriente vers le fait de se tourner vers Allah et vers le fait d'implorer Allah. Et dans cela, il y a un plaisir pour le croyant de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala, de s'orienter vers Allah subhanahu wa ta'ala. Le croyant qui a une aqida authentique contre Allah subhanahu wa ta'ala lui facilite, il lui ouvre la porte de la science bénéfique, hein, et la science des bonnes œuvres, ou le fait d'être bienfaisant envers les autres. Ben, il se réfugie dans sa foi. Et sa foi lui fait savoir, reconnaître que ceci, c'est un bienfait d'Allah Azza wa Jal, qu'il doit reconnaître ce bienfait à Allah subhanahu wa ta'ala, louer Allah subhanahu wa ta'ala pour ce bienfait, et faire les éloges à Allah subhanahu wa ta'ala comme il sait à sa grandeur. Parce que sans l'aide d'Allah Azza wa Jal, on n'aurait pu rien faire, comme ils ont dit les nobles compagnons. Laulallahu mahtadayna. Voilà, somna, voilà, sallayna. Si ce n'est la grâce d'Allah, on n'aurait pas été guidé, ni on aurait pu jeûner, ni on aurait pu prier. Hein? Ceux-là, ils ont compris la soumission totale à Allah. Ceux-là ont compris comment se réfugier dans leur foi, dans toutes les situations. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, il nous a fait qu'il est obligatoire de suivre leur chemin. Hein? قال عز وجل ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا ولكن الله يزكي من يشاء. Il est dit dans le verset, dans la traduction approximative du sens du verset, si ce n'est pas la grâce d'Allah vous concernant, et les bienfaits avec lesquels Allah subhanahu wa ta'ala vous comble ainsi que sa clémence sur vous, personne de vous ne serait purifié. Il ne serait bon. Personne. Mais Allah subhanahu wa ta'ala purifie qui il veut. Mais sur le chemin de la droiture et du bien qui il veut subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que nous devons nous rappeler chaque fois qu'on lit dans chacune de nos prières, dans toutes les rak'at, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Toi seul nous adorons et auprès de toi seul on cherche aide. Cela te montre qu'on est incapable de faire quoi que ce soit sans l'aide d'Allah Azza wa Jal. Donc nous ne devons pas être un but de nous-mêmes. Nous devons nous remplir de modestie et de pauvreté face à Allah subhanahu wa ta'ala et de reconnaître que le bien dans lequel on est, il vient min Allah. La guidance, la bonne orientation et d'être bien orienté vient min Allah. D'accomplir les bonnes œuvres vient min Allah. Subir une catastrophe ou un malheur vient min Allah. Et nous devons nous repentir au moment où on fait des erreurs. Parce qu'on est faillible. On est défaillible. Wa qala azza wa jal, walakin Allah habbaba ilaykum al-imana وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. Et méditez le verset ce qu'il dit dans cette traduction approximative du sens. Certes, Allah vous a fait aimer la foi. Il l'a embellie dans vos cœurs. Il vous a détesté la mécréance, la perversité, la désobéissance. Ceux-là, ce sont ceux qui sont bien orientés. Et ceci est un bienfait, est une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala pour vous, lui qui sait tout et qui fait les choses à la perfection, subhanahu wa ta'ala. Donc tout vient min Allah azza wa jal. Donc le croyant remercie, il loue Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a orienté et qui l'a aidé à accomplir cette adoration. Et donc, quand il accomplit un bien, il ne devient pas un but de lui-même. Le fait d'être un but de lui-même, c'est une grande mosiba, c'est une grande catastrophe. Il peut amener à la mécréance. Il peut amener à dépasser ses limites. Hein? Le fait d'être un but de soi, c'est la destruction de l'être humain. Ça l'amène à sa perte. Et c'est l'anéantissement de ses œuvres. Parce que, déjà, il ne remercie pas Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il se croit que c'est lui qui a accompli ce qu'il a accompli. Et tu vas voir l'histoire d'un homme de science contemporain qui est mort dans la mécréance. Il avait de la science, beaucoup de science. Et un jour, il a dit à un autre homme de science, est-ce que je suis arrivé à Ibn Taymiyyah ou est-ce que j'ai dépassé Ibn Taymiyyah? Ça prouve quoi? C'est qu'il était un but de lui-même. Il s'appelle Abdullah al-Qasimi. Et cet homme qui défendait le monothéisme auparavant et qui combattait les déviants et l'associationnisme est mort apostat. Les livres qu'il a écrits pour le bien de l'islam, pour la défense du monothéisme, après il a écrit des livres contre l'islam. Et il est mort, apostat, avec sa science. Qu'est-ce qu'il en est de nous autres pauvres ignorants? Comment nous devons-nous être devant Allah Azza wa Jal? Hein? Nous devons reconnaître notre incapacité, notre besoin constamment d'Allah Azza wa Jal. Et demander à Allah subhanahu wa ta'ala de ne pas nous laisser libres à nous-mêmes, ne serait-ce qu'un clin d'œil. C'est très dangereux pour nous. Dites livrer à nous-mêmes. Quand Allah comble quelqu'un par l'obéissance et par l'accomplissement du bien, il doit tout de suite reconnaître ce grand bienfait à Allah et reconnaître que c'est une réussite avec laquelle Allah il l'a comblé. Et d'implorer Allah, et de le louer, et de l'implorer pour lui augmenter ses bienfaits, hein, et de reconnaître constamment les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala le concernant. Et c'est ça qui prodigue le bonheur au croyant, qui lui donne cet apaisement, cette quiétude, cette sérénité intérieure. Et quand il tombe dans la désobéissance, sa foi l'oriente vers le repentir. L'oriente vers le fait d'avoir de la pudeur devant son souverain subhanahu wa ta'ala et devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et de revenir vers Allah. Et cette fois, et ce retour vers Allah azza wa jal prodigue à la personne le bonheur. Le bonheur du repentir. Le bonheur de revenir vers Allah. Le bonheur d'écraser son orgueil et de ne pas être imbu de soi. C'est pour ça, si la personne ne perfectionne pas ce point de l'obéissance et la désobéissance, il ne perfectionne pas le retour vers Allah et le repentir, cela peut être néfaste pour lui. Des fois, la personne, par son accomplissement de l'obéissance, il est imbu de lui-même. Hein? Et cette obéissance le détruit. Et des fois, la désobéissance peut être une porte du bien pour la personne. S'il se repent d'un repentir sincère et qu'il revient vers Allah subhanahu wa ta'ala d'un retour véridique. Hein? Regarde beaucoup d'exemples autour de toi dans ce monde. On rapporte d'un de nos pieux prédécesseurs, radhiyallahu alayhim, qui a dit qu'un homme est rentré au paradis par une désobéissance. Et qu'un autre homme est rentré au paradis, à l'enfer, par une obéissance. Un est rentré par un péché et l'autre, il est rentré par le biais d'un péché au paradis. Et l'autre est rentré en enfer par le biais d'une hasana. Et on l'interrogea, comment ça peut arriver? Comment est-ce possible? Il a répondu, rahimahullah ta'ala, Hada, il a commis un péché, il a peur du châtiment d'Allah, ne l'a pas quitté depuis qu'il a commis ce péché. Et donc la peur a fait naître en lui quoi? Le repentir. Il a peur du châtiment d'Allah, maintenant pour ce péché, ne l'a pas quitté. Hein? Et quand il a rencontré son souverain, subhanahu wa ta'ala, il lui a pardonné par le biais de sa peur d'Allah. Et l'autre, il a dit, et l'autre a accompli une bonne œuvre, il n'a cessé d'être imbu de lui-même. Hein? Et de se vanter avec, et de la raconter. Et il a rencontré Allah, Allah l'a châtié, en le faisant rentrer en enfer. Être imbu de soi, c'est la perte de la personne. Quand la personne est imbue de lui-même, les autres ne valent rien devant lui. Ils spolient leurs droits. Ils transgressent les droits d'Allah les concernant. Ils ne s'acquittent pas des droits des gens, hein, duquel ils doivent s'acquitter. Ils considèrent les gens comme un moins que rien, et que personne n'est mieux que lui. Hein? Es-tu à voir ceci, hein, dans cette division qui a touché la communauté salafie? Hein? Une des choses principales, c'est certains se considèrent au-dessus de tout le monde. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Ibn al-Qayyim rahimahullah dit une parole qu'il faut prendre en considération, qu'il faut méditer, qu'il faut avoir devant soi et qu'il faut tout le temps y penser à cette parole. Hein? Il dit rahmatullah alayh, le signe du bonheur, c'est que le soumis met ses hasanat derrière lui. C'est-à-dire, il fait les hasanat, il les oublie. Et que ses péchés soient toujours en face de lui, présents dans son esprit. Il dit le signe du malheur de la personne, le signe du malheur du soumis à Allah Azza wa Jal, c'est qu'il met ses hasanat devant lui, il n'arrête pas de se vanter avec. Il les a toujours présentes dans son esprit et il ne cesse d'en parler. Et il oublie ses péchés. Ça, c'est le signe du malheur. Hein? C'est-à-dire, il oublie ses péchés, il ne se rappelle que ses hasanat. tu l'entends dire, c'est qui a fait ceci si ce n'est moi? Qui a pu avoir ceci si ce n'est moi? Il se vante. Il met ses hasanats devant ses yeux. Et ses nombreux péchés, ses nombreux défauts, ben il les oublie. Il ne s'en rappelle plus. Et ça, c'est la voie du malheureux. Quant à celui qui accomplit l'obéissance et qui l'oublie, il ne la rabâche pas tout le temps. Il ne se vante pas. Aujourd'hui, j'ai jeûné. Aujourd'hui, j'ai fait la charité. Aujourd'hui, j'ai fait cela. Aujourd'hui, etc. Il ne la cite pas. Il l'a fait par sincérité pour Allah. Il l'oublie, espérant la récompense minallah subhanahu wa ta'ala. Mais il n'oublie pas ses péchés. Il se rappelle ses péchés. Il les regarde. Il les a toujours dans son esprit. Car le fait de penser à ses péchés prévoit à la personne la crainte d'Allah. Prévoit à la personne le repentir constamment. Hein? Et d'avoir peur du châtiment d'Allah et de ne pas retarder le repentir du mal qu'on a fait. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce que l'ange de la mort il va arriver pour prendre nos âmes. Contrairement au fait de comptabiliser les bonnes œuvres. Cela amène à être imbu de soi. Et cela amène au fait d'être insouciant des erreurs et des péchés qu'on a commis. Et ceci, c'est une cause de la perte. C'est une cause du malheur. C'est pour ça, le signe du bonheur, c'est d'avoir en face de soi ses péchés et d'avoir peur de leurs conséquences et de faire des efforts sur soi pour revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala et s'en repentir et louer Allah azza wa jal pour les obéissances parce qu'on les accomplit par l'aide d'Allah. Sans l'aide d'Allah, on n'aurait pas pu. Et nous ne devons pas rester à rabâcher le bienfait qu'on a fait, à le comptabiliser et oublier nos péchés. Abadan. Donc le croyant obtient son bonheur avec sa foi. Car c'est la foi est son refuge dans toutes les situations. Au moment du malheur, au moment de la catastrophe, au moment des péchés, hein, dans l'obéissance, dans la désobéissance, la foi c'est son refuge. C'est son refuge dans ce qu'il aime et dans ce qu'il déteste, dans toutes les situations. Et sa foi le guide, l'oriente vers la solution et vers l'œuvre qu'il doit accomplir et comment il doit se comporter. Et nous devons nous pencher d'une façon pour prendre les leçons sur un petit livre qui est petit dans la taille, mais qui est grand dans les bienfaits qu'il prodigue, si on le comprend. C'est un livre aussi de l'érudit Cheikh Abdelrahman Saadi. Il s'appelle « Tawdih wal bayan li shajarat al-iman » L'éclaircissement de l'arbre de la foi contient beaucoup de leçons bénéfiques à tous les niveaux au niveau de la foi. Dans ce livre, rahimahullah, il a réservé, après avoir montré ce que c'est que la foi, et bien défini la foi, qu'est-ce qui augmente la foi, etc., et qu'est-ce qui la diminue, hein? Et il a montré que la foi, c'est le refuge pour les croyants à tous les niveaux et dans toutes les situations. Et que la foi, c'est elle qui prodigue à la personne le bonheur dans ce bas monde, comme il est dit dans le verset, « Inna al-abrara la fi na'im » Ceux, les pieux, la traduction approximative du sens du verset, les pieux qui font le bien, sont dans les délices. Comme disent les savants, rahmatullah alayhim, ils sont dans les bienfaits, dans les trois demeures, dans les délices, dans les trois demeures. Dans les bienfaits, dans les trois demeures. Dans ce bas monde, dans le barzakh, le monde intermédiaire entre ce bas monde et le delà, et dans le delà aussi. Et dans le delà aussi. وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ. Et dans le sens contraire, les libertins, les pervers, sont dans la fournaise. Hein? Les hommes de science disent, dans la fournaise, dans ce bas monde, dans le monde intermédiaire, entre le bas monde et le delà, et dans le delà aussi. Hein? Donc nous devons nous pencher sur ce livre, nous montre les bienfaits dans lequel, avec lesquels sera comblé celui qui accomplit sa foi. Qu'est-ce qu'il attend? Hein? Et comment augmenter sa foi? Et c'est un livre qui est à la portée de tout un chacun. Avec un minimum d'arabe, on peut comprendre. Parce que c'est un style qui est facile et qui est agréable. La source du bonheur à l'islam et sa base sur laquelle il est fondu, c'est la foi, l'iman. Le serviteur et le soumis à Allah subhanahu wa ta'ala a besoin d'accomplir l'iman. Et dans toutes les situations de sa vie, il faut que ça soit son refuge dans toutes les situations. Comme l'explique Cheikh Saadi rahmatullah alayhi dans son livre Shajarat al-Iman. Et c'est aussi la signification de la parole que nous avons vue auparavant, la parole d'Ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi, qui dit la foi en Allah et en son messager, c'est la synthèse et la base du bonheur. C'est la synthèse et la base du bonheur. Ce bonheur, hein, intérieur, et cet apaisement intérieur, s'obtient en se réfugiant dans sa foi, en mettant en application ce qu'implique la foi. Hein? Et la foi, ce sont des croyances, des paroles et des actes. La foi, c'est tout ça. C'est un ensemble, ce sont des croyances sur lesquelles le cœur du croyant est noué. Et des actes du cœur aussi, comme l'espoir, mettre sa confiance en Allah, etc. Et c'est aussi la parole de la langue, comme le fait d'attester qu'il n'est digne d'être adoré Allah, la lecture du Coran, les glorifications d'Allah, et ainsi de suite, le fait d'ordonner le bien, d'ordonner, hein, de blâmer le mal, hein, en orientant les gens, en exhortant les gens. Et c'est aussi des œuvres qu'on fait, la prière, le fait d'enlever, hein, le mal sur le chemin, et ainsi de suite. Tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée, hein. Donc la base du bonheur du soumis à Allah est dans sa foi en son Seigneur subhanahu wa ta'ala et en son messager et dans l'accomplissement des obligations de la foi et de ses surrogatoires. Les obligations, et on rajoute aux obligations tout ce qui est surrogatoire qu'on peut faire. Les prières obligatoires, on rajoute à ça tout ce qui est surrogatoire qu'on peut faire. Le jeûne obligatoire et les jeûnes surrogatoires, et ainsi de suite. La zakat obligatoire et la charité surrogatoire, et ainsi de suite. Et la foi aussi, un point essentiel dans la foi, dans l'iman, la foi appelle à avoir de bons rapports avec les autres. Beaucoup d'angoisse, de tristesse, de colère, de perturbation, vient des mauvais rapports avec les autres. Les mauvais rapports qu'on a avec ses parents, avec sa femme, avec ses enfants, avec l'entourage, avec les collègues de travail, avec les gens de la société dans lequel on évolue, et ainsi de suite. Quand les rapports du soumis avec les autres s'accomplissent à la lumière des obligations de la foi et de ses orientations, le soumis aura le bonheur et sera apaisé dans sa façon d'agir avec les autres. Mais si ses rapports avec les autres s'accomplissent selon ses passions, selon ses envies, selon ses pensées stériles. Ceci sera néfaste pour lui et pour les autres. Ceci le rendra malheureux et rendra les autres aussi malheureux. C'est pour ça, pour avoir la vie des heureux, ça passe aussi par les bons rapports avec les autres, selon ce que implique la foi. Et qu'on se pose la question, hein? Vers quoi nous oriente la foi dans les rapports avec les autres? C'est quoi qui est obligatoire de par notre foi dans nos rapports avec les autres? On regarde vers quoi nous oriente cette législation musulmane au niveau des rapports à avoir avec les autres. Car les comportements islamiques, les comportements qu'impose cette législation et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait obligatoire dans son livre et dans la sunna de son messager alayhi salatu wasalam, et vers lequel a appelé à et ce qu'a accompli le messager alayhi salatu wasalam et vers lequel il a appelé la communauté, c'est quelque chose d'important dans l'acquisition du bonheur. Essentiel dans l'acquisition du bonheur. Sans les comportements de l'islam, le bonheur ne s'obtient pas. La personne sans les comportements, sans un noble comportement musulman, sera malheureux et rendra les autres malheureux. Celui qui est mauvais dans son comportement est malheureux et rend les autres malheureux. Et quand il est doté d'un bon comportement, il sera apaisé intérieurement, il apaisera les autres aussi avec lui. Il sera dans la quiétude et il sera source de quiétude des autres. Donc le bonheur, par le biais de la foi, impose soumis à Allah de s'acquitter des obligations de la foi au niveau du comportement et des rapports avec les autres pour qu'il puisse combler. Pour qu'il puisse être comblé de ce bonheur de la meilleure des façons. Dans ce sens, il y a une belle parole de Cheikh l'Islam, le Taymiyyah rahmatullah alayh, qu'il faut méditer. Il dit, le bonheur par le biais des rapports avec les autres, il dit concernant le bonheur par le biais des rapports avec les autres, c'est que tu agisses avec eux pour Allah. Hein? C'est que tu agisses avec eux pour Allah. Et dans ton rapport avec eux, ton espoir doit être en Allah et non pas en eux. Et tu crains Allah dans ton rapport avec eux. Et tu ne les crains pas eux. Tu crains Allah dans ton rapport avec eux. Et tu te comportes avec eux en attendant la récompense d'Allah et non pas leur récompense. Et tu ne leur fais pas subir de préjudice par crainte d'Allah. Ainsi doivent être nos rapports avec les autres. Si nous voulons être apaisés intérieurement et avoir l'apaisement par le biais des rapports avec les autres, nous devons être ainsi. Avec les autres. Ça, c'est une noble parole de ce grand imam pour obtenir le bonheur par le biais des rapports avec les autres et pour avoir l'apaisement intérieur. C'est pour ça que le messager de la clémence, alayhi salatu wassalam, a dit, le musulman, c'est celui qui épargne aux musulmans le mal de sa langue et de ses mains. Il leur épargne le mal de sa langue et le mal de ses mains. Et le croyant, c'est celui avec qui les gens se sentent en sécurité. Et c'est un hadith rapporté par l'imam Bukhari, l'imam Muslim. Donc la foi prodigue le bonheur et aussi la quiétude et la plénitude quand il est observé dans les rapports avec les autres. Mais celui qui n'agit pas avec les autres selon les directives de la foi sera malheureux et rendra les autres aussi malheureux. Et tu peux le constater à une petite échelle, hein, dans les rapports que certains ont avec leurs femmes, comment les femmes sont malheureuses et comment aussi ils sont malheureux. Et ceci aussi se voit sur les enfants. Hein? Et il est dit dans le verset, قال عز وجل إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. Dans le verset, il est clair. Certes, dans la traduction approximative, il dit ceci. Certes, nous vous nourrissons pour Allah. Et on ne veut pas de récompense de votre part, ni de remerciement. On le fait pour Allah. Donc tout ce que tu fais pour les gens, pour ta communauté, fais-le pour Allah. Hein? Comme ça, tu vas être apaisé, ils le seront aussi avec toi. Donc celui dont les rapports avec les gens sont basés sur des intérêts et non pas pour Allah, il ne sera pas apaisé. Car les gens sont différents au niveau d'eux, au niveau social, au niveau de leur tempérament, au niveau de leur passion, au niveau de leur façon de penser et au niveau de leur foi. Il y a parmi eux ceux avec qui tu te comportes bien et avec qui tu es bon. Il est en train de te creuser un trou pour t'y faire tomber. Il est en train de comploter pour toi ou contre toi. Il est en train de comploter plutôt contre toi. Si tu es bon avec eux pour quelque chose que tu espères obtenir d'eux, tu vas être choqué, tu vas être déçu par une réaction ou un comportement que tu n'attendais pas. Et ceci va te rendre triste, il va te rendre malheureux. Mais si tu te comportes avec eux pour Allah, est-ce que tu fais vis-à-vis d'eux, tu le fais pour Allah et tu n'attends rien de leur part, ni récompense, ni reconnaissance, tu vas être apaisé à cause de ta foi et à cause de l'espoir que tu as mis en Allah subhanahu wa ta'ala dans ce rapport que tu as avec les autres. Donc le bonheur avec la foi dans les rapports avec autrui, c'est que tu te comportes avec eux selon ce que te dicte le livre d'Allah et la sunna du prophète alayhi salam, et non pas pour un intérêt mondain ou pour un but que tu veux obtenir de leur part. Sa'di rahimahullah, dans sa poésie Sayru ila Dar al-Akhirah, poésie qu'il a écrit, qui peut être intitulée ainsi, le cheminement vers Allah et le delà. Il a commencé cette poésie ainsi. سعيد الذين تجنبوا سبل الردى وتيمموا لمنازل الرضوان. Il a commencé ainsi par ce vers. Ils ont eu le bonheur ceux qui ont évité leurs mauvaises voies, qui ont évité les mauvaises voies et qui se sont orientés vers les degrés de la satisfaction d'Allah. Et qui ont pris le chemin, hein, de l'obéissance à Allah, Azza wa Jal. Dans cette poésie, rahimahullah, il a cité les qualités de ceux qui auront le bonheur. Il a cité dans cette poésie les qualités et les caractéristiques de ceux qui vont obtenir le bonheur dans ce bas monde et dans le delà. Cheikh l'Islam, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, a réservé un merveilleux chapitre dans Zad al-Ma'ad. Ce chapitre, il l'a réservé pour les causes de l'épanouissement des cœurs. Les causes de l'épanouissement des cœurs. Et l'épanouissement du cœur, c'est le bonheur, c'est la plénitude, c'est la quiétude, c'est l'apaisement. Et parmi ces causes, le monothéisme. Une des causes principales du bonheur et de l'apaisement, c'est d'accomplir la religion sincèrement pour Allah. Hein? Plus l'accomplissement de la religion est accompli, plus la religion est accomplie sincèrement pour Allah, plus l'apaisement est grand. Selon la grandeur de l'accomplissement de la religion sincèrement pour Allah sera la grandeur du bonheur et de l'apaisement de la personne. Parmi les causes aussi, la science bénéfique. قال الله قال رسوله قال الصحب الكرام. Allah a dit, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, les nobles compagnons ont dit. Hein? Ceci aussi épanouit les cœurs et apaise les esprits. Il prodigue le bonheur. Et tu as médité les livres des hommes de science, comment ils les ont appelés certains livres. Raudul Unuf, Bustal Arifin, Riyad Salihin, Riyadul Jannah. Hein? Ils ont donné des termes qui ont rapport avec la végétation. Quand tu te retrouves dans la verdure, dans un parc, comment tu te sens? À l'aise, apaisé. Ben, certains livres des hommes de science leur ont donné des titres qui attirent et qui signifient l'apaisement. Cela veut dire que pour les hommes de science, la science est un apaisement, est un moyen pour être apaisé. Et tu as à voir ceci dans la parole de Cheikh Mukbir rahimahullah. Il dit, fois on est triste, on est fatigué. Il dit, dès qu'on s'assoit, on entend haddatana ou akhbarana, notre fatigue disparaît. Haddatana ou akhbarana, ça veut dire ce qui est cité dans les chaînes de transmission du hadith avant que le hadith soit cité. Hein? Et donc, les assises sont Riyad al-Jannah. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam les a appelées Riyad al-Jannah. Hein? Des jardins, des parcelles de jardins qui viennent du paradis. Hein? Donc c'est un lieu d'apaisement. Hein? Ces assises où tu entends Allah à dire, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, wa alaykum salam wa rahmatullah, selon la voix et la compréhension des pieux prédisseurs d'Allah alayhim. D'où l'énorme erreur quand on vit dans ce genre de pays où il n'y a pas de savon et qu'Allah des fois nous comble par un étudiant ou par la venue d'un cheikh, hein, de l'Orient ou d'autres, d'un cheikh ou d'un étudiant qui enseigne selon la voie des nobles compagnons d'Allah alayhim. Et qu'on déserte ses assises, on passe à côté d'un grand bien. On les déserte pour un match de football, ou là pour palabrer autour d'un tacos, ou là sur des futilités. Hein? Oisiveté n'importe quoi dans les rues, et ainsi de suite. Et on oublie que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a appelé ses assises Riyadul Jannah. Et donc, et parmi les causes qu'il a citées aussi, c'est le fait de se repentir et de revenir vers Allah. Et d'aimer revenir vers Allah Azza wa Jal et orienter son cœur vers Allah subhanahu wa ta'ala et aller chercher le plaisir dans l'adoration d'Allah, car l'adoration d'Allah et la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala apaise les cœurs et prodigue le bonheur. Parmi les choses qu'il a citées aussi, c'est le fait d'invoquer Allah Azza wa Jal constamment en tout lieu et en toutes circonstances. L'invocation d'Allah Azza wa Jal a un effet particulier sur l'épanouissement du cœur. Fait d'invoquer Allah et de comprendre les termes avec lesquels on invoque Allah Azza wa Jal. Hein? De comprendre ce qu'on dit. Hein? Ceci a un impact particulier sur les cœurs. Il prodigue un bonheur particulier au cœur. Et l'insouciance fait le contraire. Le fait d'être insouciant de l'invocation d'Allah Azza wa Jal et de ne pas invoquer Allah Azza wa Jal, ceci, hein, est très dangereux pour les cœurs. C'est pour ça que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a instauré des invocations à des moments bien précis, pour dormir, pour manger, pour avoir les rapports avec sa femme légitime, pour sortir de la maison, pour rentrer aux toilettes, pour, etc. Les invocations du matin, les invocations du soir, les invocations après la prière, et ainsi de suite. Hein? Aussi, parmi les causes qui donnent l'épanouissement et le bonheur à la personne, la bienfaisance envers les créatures. Hein? On les aidant selon les capacités, que ce soit par l'argent. Ah, tu as un poste, tu peux les aider par quelque chose, tu l'aides par une bonne parole, par un sourire, par le fait d'aller l'aider, hein, dans une tâche ou autre, ou par le dua, en lui faisant des dua. Tout ceci est une cause du bonheur pour toi et pour lui. Aussi la bravure dans la vérité. La bravure, c'est le contraire de la lâcheté. Et la bravure dans la vérité et pour la vérité épanouit les cœurs et les apaise. Hein? Quant à la lâcheté, il rend la situation sombre et difficile. Il a cité aussi une cause très importante, Ibn al-Qayyim rahmatullah alayh, dans Zad al-Ma'ad, c'est de purifier son cœur des mauvaises qualités. La rancune, l'orgueil, la haine, la jalousie. Tu dois faire un travail constant sur ton intérieur et d'essayer de purifier et d'enlever le mal qu'il y a dedans. Et ça, personne ne peut le faire à ta place. Il n'y a que toi qui dois faire des efforts constamment sur toi-même. Et aussi, s'éloigner de zuiter ce que Allah subhanahu wa ta'ala interdit. Surtout que maintenant, c'est facile avec ses téléphones. Hein? La personne, vas-y, il ne fait pas attention. Combien d'images haram, il passe devant lui. Avant, c'était la télé. Maintenant, c'est plus grave encore avec ses téléphones. Faire très attention à ça. Et regarde comment on est devenu accro au téléphone. Dès que la personne dit salam alaykoum, il sort son téléphone. Si on était accro au livre d'Allah, il y a la lecture du livre d'Allah, comme on l'est sur le téléphone, on serait dans une autre situation. Hein? Et regarde comment on est accro à ça, à ces téléphones. Hein? À peine salam alaykoum, khlas. Comment ils étaient nos plus prédisseurs d'Allah alayhim? Ils n'avaient pas tout ça. Et comment ils étaient dans leur bonheur, dans leur épanouissement? Hein? Téléphone, tu peux l'utiliser pour le bien. Mais il faut savoir, pas au détriment. Hein? Des devoirs d'Allah, pas au détriment des choses, il faut que tu fasses attention à ce que tu ziutes là-dessus, à ce que tu écoutes là-dessus, à ce que tu propages aussi. Des fois, il y a une information qui arrive et tu l'envoies. Hier, après Salat al-Isha, je reçois un message. Et c'est n'importe quoi. C'est rigoler sur cette catastrophe qu'a subi le monde. Et la personne la propage comme ça. Cette leçon, Allah subhanahu wa ta'ala, cette maladie, hein, et cette épreuve, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a envoyé à l'humanité pour se réveiller et pour prendre conscience de la situation dangereuse dans laquelle on est. Et là, il en rigole. C'est pas un non-musulman, c'est un musulman. Il en rigole. Alors qu'il y a beaucoup de monde qui vont être privés d'une grande adoration durant le mois de Ramadan, qui est le fait de faire la Umrah. Et que beaucoup de monde sont en privé maintenant, à certaines heures de la journée et du soir, et privé des traces d'aller s'asseoir pour chercher son apaisement et sa quiétude, un peu en invoquant Allah dans la Rauda, cet endroit qui se trouve entre le minbar du prophète alayhi salam et les appartements de ses femmes. Et ça, en soi, c'est une catastrophe. Et ça ne fait rien. Ça veut dire que les cœurs, si on rigole de cette épreuve que Allah subhanahu wa ta'ala nous a envoyée et que ça ne nous réveille pas, ça veut dire que nos cœurs sont scellés. Nous devons faire très attention parce que c'est une situation très dangereuse. Et donc nous devons, parmi les choses qui causent l'épanouissement interne, s'éloigner de ziyouté n'importe quoi et éviter le surplus de palabres dans les futilités. Ils dirent, nous avons dit, ils ont dit n'importe quoi et passer le temps dans n'importe quoi. Et éviter le surplus de bouffe et de sommeil, car toutes ces choses se transforment en douleur, se transforme en regret dans le cœur, il opprime les cœurs, il les rend serrés, il donne l'angoisse. Et d'autres choses qu'il a citées, rahimahullah, il faut revenir à Zad al-Ma'ad, au début du 12e tome, il y a ce chapitre, l'épanouissement des cœurs. Il ne faut pas oublier non plus l'arme fatale, du'a. Car elle est la clé de tout le bien et de tous les bonheurs dans ce bas monde et dans le delà. Et nous avons vu auparavant que le bonheur est entre les mains d'Allah. Donc il faut le demander à Allah Azza wa Jal. Et donc le soumis à Allah subhanahu wa ta'ala doit demander constamment et avec insistance, insister son bonheur, son épanouissement, sa quiétude à Allah subhanahu wa ta'ala. Constamment, il doit la demander à Allah. C'est vers Allah que nous devons nous tourner pour avoir l'apaisement de notre intérieur. Et nous devons accomplir les causes et les moyens qui vont nous prévaloir cet épanouissement et cette joie intérieure et ce bonheur. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala vers lequel nous devons nous tourner pour nous dissiper nos angoisses, nos malaises intérieurs. Et méditons cet enseignement du prophète alayhi salatu wassalam dans le doua du soucieux et de celui qui est en détresse et qui est accaparé par ses soucis. قال عليه الصلاة والسلام اللهم إني عبدك وابن عبدك ابن أمتك اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك سألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأتت به في علم الغيب عندك أن أو علمته أحدا من خلقك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. وفي رواية وأبدله مكان حزنه فرحا. Le serviteur accomplit ce dua. Il sait ce qu'il dit, il comprend ce qu'il dit. Allah subhanahu wa ta'ala, il lui dissipe ses soucis, ses angoisses. Il les change en bonheur et en joie. Que nous dit le hadith et ce dua? Ô Allah, nous devons le faire tout maintenant dans cette catastrophe que nous subions. Nous devons faire souvent ce dua pour que Allah subhanahu wa ta'ala dissipe ce malheur que nous subissons. Ô Allah, je suis ton serviteur, fils de ton serviteur et de ta servante. Mon toupie et dans ta main, ton jugement s'exécute sur moi. Ta prédestinée m'est juste. Je t'implore par chaque nom qui t'appartient et que tu t'es donné à toi-même ou que tu as révélé dans, ou que tu as révélé dans ton livre ou que tu as gardé dans l'invisible ou que tu as enseigné à l'un de tes serviteurs ou à l'une de tes créatures ou ceux que tu as préservés dans ta science invisible, de faire que le Coran soit le printemps de mon cœur, et la lumière de ma poitrine, et la dissipation de ma tristesse, et la disparition de mes soucis. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui fait ce dua, Allah subhanahu wa ta'ala lui change ses angoisses, sa tristesse en joie, il lui donne l'apaisement. Hein? Quand on médite ce hadith, on y trouve de grandes preuves pour se débarrasser des soucis et des angoisses. Hein? Et que cela s'obtient par quatre choses qui sont dans ce noble hadith. L'accomplissement de la soumission totale à Allah. Je suis ton soumis, le fils de ton soumis et le fils de ta soumise. Abduka, ibn abdik, ibn amatik. Ça, c'est la première chose. La deuxième, la foi en le destin. Hein? Si Allah veut quelque chose, il va exister. S'il ne le veut pas, il n'existera pas. Madin fiya hukmuk, adlun fiya qada'uk. La prédestinée est juste. Ta prédestinée pour moi est juste. Donc le croyant face à cette catastrophe, la soumission à Allah. Hein? Et de demander à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est tout. De prendre les moyens pour se préserver. Et l'arme fatale qu'il ne faut pas oublier, c'est de s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Et que si nous devons être touchés par cette épidémie, on sera touchés. Hein? Et si Allah subhanahu wa ta'ala préservé de nous préserver, ben nous serons préservés. Hada, premièrement, la soumission à Allah. Deuxièmement, la foi correcte en le destin d'Allah. Que rien ne peut se passer dans cet univers sans que Allah subhanahu wa ta'ala nous l'ait voulu. Et aussi, la troisième, c'est la foi en les noms et les attributs d'Allah. En les sublimes noms d'Allah. Et en les hauts attributs et les hautes qualités d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et de connaître leur signification et de le mettre en application. Quand tu sais qu'il est Samir, il entend tout. Tu ne dois pas faire entendre Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'il n'aime pas et ce qu'il n'agrée pas. Comme insulte, comme chant, et ainsi de suite, comme calomnie, comme médisance, comme colportage, et ainsi de suite. Tu sais qu'il voit tout, ne fais pas n'importe quoi. Parmi les actes que Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas et n'agrée pas. Tu sais qu'il sait tout, alors tu dois préserver. Il faut les mettre en application. Préserver les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala et s'éloigner de tout ce qu'il a interdit. Hein? La foi en ses sublimes noms, et tu la vois, as'aluka Allahumma bi kulli ismin huwa lak. Je te demande à Allah par tous noms que tu t'es donné, hein, ou que tu as enseigné à l'une de tes créatures, ou que tu as fait descendre dans ton livre, ou que tu as réservé dans l'invisible, hein, parce qu'il y a des noms, on ne les connaît pas. Ils sont dans l'invisible que Allah subhanahu wa ta'ala s'est préservé. Hein? Et aussi, la quatrième chose, c'est s'occuper et donner l'importance au Coran. Car le Coran, c'est le printemps des cœurs, la lumière du poitrine et l'éclaircissement pour les âmes et l'apaisement des âmes. Et il t'oriente vers tout le bien. Inna hadha al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Ce Coran guide vers la droiture. Il n'y a pas un bien ou une droiture vers laquelle ne guide pas le Coran. Tout le bien et toute la droiture, elle est stipulée dans le Coran. Hein? Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Quand il vous arrivera ma révélation, hein? Celui qui l'a mis en application ne sera ni égaré ni triste. Nous devons méditer ces quatre points qu'il y a dans ce hadith, ce noble hadith du messager alayhi salam. Hein? Ce hadith, celui qui le fait et qui comprend ce qu'il dit Il s'oriente vers Allah avec un cœur éveillé, pas un cœur distrait. Bah, ça va dissiper ses soucis, sa tristesse, ses inquiétudes, son angoisse. Et ça va lui prodiguer à son âme, à son cœur, l'apaisement, la quiétude, la joie, le bonheur et la plénitude. Fais Allah al-Azim, Rabb al-Arsh al-Azim, bi asma'i al-husna wa sifati al-ula, an yurzuqna wa iyyakum انشراح الصدر. سألوه سبحانه وتعالى أن يكرمنا وإياكم بانشراح صدورنا. سألوه سبحانه وتعالى أن يرينا وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا وإياكم الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. سألوه سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى أن يحفظنا وإياكم وأن يخرجنا وإياكم من هذه البلاد سالمين غانمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم وأحسن الله لكم، جزاكم الله خيراً.